Vous écoutez, on lit pour vous.
Dans quel ordre décaisser ses revenus de retraite? Un texte de Didier Bert, paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Au décès de mon mari, je recevrai 40% de sa retraite d'employeur. Au niveau fiscal, si je lui survis, est-il préférable que je sorte de l'argent de mon REER maintenant, puisque mes revenus augmenteront à son décès et que je risque alors de payer plus d'impôts? Manon T., Candiac. La réponse de Nathalie Lagacé-Albert, planificatrice financière et directrice développement et soutien, investissement et planification financière, Banque nationale. Il est essentiel, au début de la retraite, de se poser cette question pour laquelle il n'existe pas de réponse unique. On a longtemps entendu dire qu'on devrait commencer par décaisser les placements non enregistrés et garder ses REER le plus longtemps possible à l'abri de l'impôt. Cependant, cette règle ne s'applique pas à toutes les situations. Chaque cas est unique et requiert un bon accompagnement. Avant de répondre à cette question, un planificateur financier fait l'analyse des sources de revenus de ses clients. Cela ne suffit pas toutefois pour prendre la meilleure décision. Il faut aussi évaluer les projets de retraite à court terme et à moyen terme et se demander quels sont les objectifs successoraux. Souhaite-t-on transmettre un patrimoine? La condition physique est aussi un facteur à considérer. Prévoit-on d'avoir des soins de santé coûteux? À quelle échéance? Toutes ces questions permettent de situer les besoins financiers dans les prochaines années et à plus long terme. Ce sont à ces besoins financiers que les décaissements devraient répondre. On pourrait alors considérer l'aspect fiscal, mais il n'est qu'un pan de la réflexion. La planification, la clé. Si on considère les projets de retraite, l'ordre de décaissement des différents revenus de retraite doit être planifié. Sinon, on risque de se retrouver à une période de la retraite avec des revenus insuffisants ou, à une autre période, à recevoir un surplus de revenus qui va faire passer à un palier supérieur d'imposition. Cette année, par exemple, un revenu annuel de plus de 86 912 $ commence à faire perdre une partie de la pension de la sécurité de vieillesse, PSV. Il est vrai qu'au décès du premier conjoint, le REER ou le FER peut être roulé au conjoint survivant. Mais au deuxième décès, tous les montants restants au REER seront imposés la même année, ce qui vient réduire la succession. Celle-ci devra payer un impôt sur le retrait du REER. C'était « Dans quel ordre décaisser ses revenus de retraite ?» un texte de Didier Bert paru en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.
Soutenir le plaisir de lire, un texte de Martin Lépine paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet 24. Comment ne pas dégoûter nos enfants de la lecture ? Citation. L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. Renaud, c'est quand qu'on va où? Citation. Je ne connais pas un seul parent qui ne souhaite pas que son enfant aime lire. Dominique Demers, au bonheur de lire. Ma fille la plus vieille vient d'avoir 10 ans. Je suis inquiet. Toutes les enquêtes le montrent. Si l'objectif prioritaire du corps enseignant dans le domaine de la lecture et de l'appréciation des œuvres littéraires est bel et bien de donner le goût de lire aux jeunes, les attitudes positives en début de parcours scolaire ne font que décliner au fur et à mesure que les élèves avancent dans la scolarité obligatoire. Des études ont montré que leur intérêt diminue d'un cycle à l'autre, d'une année à l'autre, et même en cours d'année. De façon plus spécifique, ce serait vers la fin du deuxième cycle du primaire, autour de l'âge de 10 ans, d'où mon inquiétude actuelle, que ses attitudes deviendraient progressivement plus négatives. Certains travaux américains indiquent que 4 finissants/finissantes de l'école secondaire sur 5 disent ne plus jamais vouloir ouvrir un livre de leur vie une fois leur diplôme en poche. C'est tout dire. Daniel T. Willingham, spécialiste américain des sciences cognitives, va jusqu'à affirmer dans « Pourquoi les enfants n'aiment pas lire » 2018 que si vous voulez faire de votre enfant un lecteur, ne comptez pas trop sur son école. Un tel constat est malheureux, perturbant, mais pas révolutionnaire. Dans les années 1930, la philosophe Louise Rosenblatt, déjà, soulignait que l'enseignement de la littérature avait bien souvent pour effet d'éloigner d'elle. Les spécialistes de la lecture, comme la pédagogue québécoise Jocelyne Giasson, dénoncent par ailleurs le fait que l'école privilégie les élèves qui aiment lire et laisse bien souvent tomber ceux qui vivent des difficultés. Une tendance préoccupante, qu'elle qualifie avec d'autres d'effet Matthieu, en référence au verset biblique « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Moi-même, didacticien du français, spécialiste de l'enseignement et de l'apprentissage de la lecture à l'école, je suis bien conscient du fait que notre système scolaire détourne plusieurs enfants et ados du plaisir de la lecture, voire les dégoûte de l'acte de lire. Alors, comment créer à l'école un cercle vertueux de lecteurs-lectrices qui lisent plus souvent, qui lisent bien, qui aiment lire et qui développent et maintiennent des attitudes positives vis-à-vis de la lecture? Comment tabler sur les appétences des jeunes dès leur entrée dans le système et miser sur leurs compétences pour créer ce mouvement émancipateur et entretenir cette flamme tout au long et tout au large de la vie? En pleine pandémie, en décembre 2020, le gouvernement du Québec publiait son nouveau référentiel de compétences professionnelles pour les quelques 100 000 enseignants-enseignantes de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et secondaire, de la formation des adultes et de la formation professionnelle sur l'ensemble du territoire québécois. Ce document prescriptif, en apparence anodin, venait remplacer le précédent, publié en 2001, en mettant de l'avant une toute nouvelle compétence à développer chez les enseignants et les enseignantes dès leur formation initiale et au fil de leur carrière, soit soutenir le plaisir d'apprendre. S'ajoutant aux 12 compétences déjà reconnues, mais revisitées, cette compétence vise à entretenir chez ses élèves le plaisir d'apprendre, le sens de la découverte et la curiosité, en réunissant les conditions nécessaires à l'épanouissement de chacune et de chacun. Dans une société du savoir comme la nôtre, le gouvernement souligne ainsi l'importance de développer chez les citoyens et les citoyennes une posture d'apprentissage tout au long de la vie, afin qu'ils et elles puissent s'adapter à ce 21e siècle encore à construire et y naviguer avec agilité. Pour y arriver, le référentiel mise explicitement sur le développement de compétences langagières, notamment la lecture. En ce domaine, culture et langue apparaissent comme les deux faces d'une même médaille, associées au plaisir d'apprendre, et le corps enseignant comme un passeur, un entremetteur entre l'élève et la culture, un rôle que le pédagogue français Jean-Michel Zakartchouk a défini à la fin des années 1990 comme l'envie de faire partager un ensemble d'œuvres humaines qui nous aident à vivre, à penser, à aimer, à trouver des réponses, comme à trouver du plaisir. Incarner le rôle de passeur-passeuse culturelle au quotidien, agir en tant que médiateur-médiatrice d'éléments de culture, c'est la première compétence professionnelle du référentiel, compétence qui sert de fondement à toutes les autres, dont celle visant à stimuler le plaisir d'apprendre. Car la culture permet de trouver des points d'appui essentiels pour mieux se situer dans l'espace-temps qui est le nôtre, en considérant l'apport précieux des humains qui nous ont précédés ou que nous côtoyons. Si nous nous appuyons sur les travaux de recherche en didactique de la lecture et de la littérature des dernières décennies, il s'agirait moins de penser aux textes à choisir et à comprendre qu'aux humains à accompagner, afin que la lecture devienne pour eux un art de vivre, une partie intégrante de leur quotidien. Comme le fait remarquer l'enseignant, auteur et éditeur pour la jeunesse Yves Nadon dans « Lire et écrire en première année » et pour le reste de sa vie, 2002. Si l'objectif n'est plus seulement d'enseigner la lecture au sens strict, mais de former des lecteurs et des lectrices pour la vie, il convient de travailler sur toutes leurs dimensions constitutives. Soulignons-le, il y a chez chaque lecteur, lectrice, différentes dimensions interdépendantes qui touchent à la fois au sens qu'il ou elle accorde à la lecture, à ses pratiques de lecture personnelle, à ses connaissances sur le monde littéraire, à ses préférences et à ses interactions avec d'autres personnes qui lisent. Former des élèves qui liront toute leur vie, c'est créer une communauté d'adeptes de littérature éclairée, aptes à formuler et à étayer des jugements critiques, esthétiques et éthiques sur les œuvres lues, avides de découvrir et de lire à et hors de l'école. Si la formation de lecteurs et de lectrices dans la durée doit être la cible à atteindre, la recherche, comme les professionnels de l'enseignement, recommande d'user, voire d'abuser, de la littérature jeunesse. Il se trouve que ce champ vit une période d'effervescence marquée au Québec depuis le tournant des années 2000, tant par la quantité que par la diversité de ses formes, qui se déclinent sur des supports variés, papier, numérique ou multimodaux, qui combinent du texte, des images, voire du son et des matériaux originaux, comme ces fameux livres en caoutchouc pour l'heure du bain ou les livres pop-up. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les enfants et les ados n'ont eu accès à autant de propositions littéraires éclatées, originales, qui représentent tous les pans de la société, par exemple, des personnages forts issus des premiers peuples, ni à autant d'univers multiples qui illustrent différents milieux socio-économiques et qui peuvent donc convenir à tous les goûts et à toutes les réalités. Nous sommes bien loin du temps où, comme jeunes, nous devions nous rabattre sur les séries européennes, Martine ou Tintin, pour goûter au plaisir de lire. À ce titre, les plus récentes œuvres littéraires pour la jeunesse offrent des expériences et des situations de lecture plus authentiques que celles proposées dans les manuels scolaires traditionnels sous la forme d'extraits. C'est d'ailleurs pourquoi de plus en plus d'enseignants et d'enseignantes les intègrent à leur pratique. Au primaire en particulier, près de 95% du corps enseignant dit recourir à ces œuvres intégrales. Par exemple, l'album « J'élève mon monstre » 2003 d'Élise Gravel et le roman « La nouvelle maîtresse » 1994 de Dominique Demers sont parmi les plus populaires dans les enquêtes menées auprès des enseignants et enseignantes. Cependant, bon nombre déclarent avoir un accès limité aux œuvres, que ce soit dans leur classe, 43,8%, à la bibliothèque de leur école, 30,9%, dans les bibliothèques publiques, 27,6%, ou même dans les librairies, 43,8%. Près de la moitié trouve ainsi important d'avoir un meilleur accès aux œuvres littéraires, 45,9%, et de savoir mieux les choisir, 40,5%. Ces données issues de ma thèse de doctorat publiée en 2017 montre bien certains des défis qui demeurent à relever pour donner au corps enseignant les moyens de ses ambitions. Vous écoutez « Soutenir le plaisir de lire », un texte de Martin Lépine paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet 24. Il est important de mentionner que les orientations ministérielles actuelles font de l'enseignement du français le domaine d'apprentissage privilégié au fil de la scolarité obligatoire en matière d'heures d'enseignement, d'évaluation des compétences, etc. Et que les programmes de formation misent justement sur l'appréciation des œuvres littéraires comme lieu d'orchestration et de synthèse des compétences de l'enseignement du français, soit lire, écrire et communiquer oralement, et qu'ils accordent aux compétences lectorales la part belle des pourcentages d'évaluation dans les bulletins. Par exemple, 50% du pointage en français est réservé aux compétences relatives à la lecture et à l'appréciation des œuvres au premier et deuxième cycle du primaire. Au troisième cycle du primaire et jusqu'à la fin du secondaire, ce pourcentage est établi à 40%. Cette importance accordée à l'évaluation détourne bien des élèves des plaisirs que nous pouvons associer à la lecture, d'autant qu'elle se cristallise souvent autour de questionnaires de compréhension écrits à réaliser seuls dans un temps prédéfini. Entendons-nous, la lecture devrait d'abord et avant tout être une expérience globale, un jeu avec la langue et le langage, textuel, visuel, graphique, sonore, s'insinuant entre un auteur, une autrice et un lecteur, une lectrice, qui embarque dans ce jeu. Ce n'est donc pas tant la lecture en soi qui décourage les enfants et les ados, mais plutôt ce que nous en faisons pour tenter de les évaluer en ne considérant pas les droits qu'ils et elles s'accordent en dehors de l'école, selon Daniel Pennac. Ceux de ne pas lire, de sauter des pages, de ne pas finir un livre, de relire son livre préféré, de lire n'importe quoi, de s'identifier au personnage, de lire n'importe où, de grappiller, de lire à voix haute ou dans sa tête, de ne pas lire du tout. Autrement dit, lire ne se définit pas seulement comme une activité de décodage et de compréhension de texte. Lire, c'est à la fois une expérience culturelle, un jeu avec le langage et un acte de construction des sens et des significations possibles. Lorsque nous lisons un texte, bien sûr, nous devons décoder et comprendre largement son contenu, mais les plaisirs de la lecture se retrouvent bien davantage dans ses aspects plus affectifs, comme l'interprétation, la réaction et le jugement. Cela est vrai pour tous les types de lecture, mais en particulier pour les œuvres littéraires, pour lesquelles il convient d'apprendre à jouer avec quelques notions qui reviennent tout au long de la vie d'un lecteur, d'une lectrice. Dans « Lire et apprécier les romans en classe », 2019, la didacticienne Manon Hébert a résumé ces notions avec l'acronyme LUPIN, soit langue, univers, personnage, intrigue, narration. Ainsi, apprendre à lire et à apprécier des œuvres littéraires à l'école et au dehors, de 0 à 100 ans, implique d'abord et avant tout un jeu avec la langue, jeu qui permet de constituer des univers réels ou imaginaires où se déploient des personnages évoluant au cœur d'intrigues soutenues par diverses tensions selon une narration originale. Pensons simplement aux multiples versions détournées du conte traditionnel du Petit Chaperon Rouge afin de saisir qu'un tel univers peut être décrit et exploré de bien des façons en fonction de l'intention artistique. Piquer la curiosité, surprendre, tenir en éveil, etc. Celle, notamment, où, tout à coup, le loup devient un allié plutôt qu'un danger, ce qui amène les jeunes à revisiter leur conception de l'histoire originale et à y réagir en fonction de leur bagage personnel et culturel. Vous écoutez Soutenir le plaisir de lire, un texte de Martin Lépine, paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet 24. Les dispositifs didactiques, conçus pour stimuler et soutenir le plaisir de lire de façon moins scolaire, sont nombreux et connus depuis des décennies. Par exemple, John Dewey, dans les années 1930, démontrait en quoi les arts, comme la littérature, devaient se vivre comme une expérience esthétique, offrant des sensations et stimulant tous les sens, le mot « sens » rimant ici avec sensoriel, sensationnel, sensible, sentimental, voire sensuel. Plus près de nous, en 2019, l'équipe américaine de Michael C. McKenna a montré en quoi l'évaluation de la lecture pouvait être une expérience positive à l'école. Pour ce faire, il faut insister sur une évaluation qui est réellement en soutien aux apprentissages, c'est-à-dire qui ne sert pas seulement à classer et à comparer les élèves entre eux, et sur une évaluation en continu, agrémentée de rétroactions dynamiques, visant à mettre en valeur l'ensemble des lecteurs-lectrices de la classe, peu importe leurs forces et leurs défis. Par exemple, un dispositif comme les cercles de lecture, qui cherchent à faire discuter les élèves sur leur expérience personnelle des livres, tend à se rapprocher d'un souper entre amis où chacun et chacune échangerait sur ses lectures passées, en cours ou à venir, de façon informelle. Ce type de dispositif peut servir à évaluer les compétences lectorales, mais aussi les compétences à communiquer oralement et à écrire des textes variés, notamment par la tenue d'un journal pour conserver des traces de ses expériences. En matière d'évaluation de la lecture à l'école, il ne s'agit donc pas de créer des situations d'évaluation artificielles, déconnectées des pratiques vécues hors du milieu scolaire, mais bien de se rapprocher des lecteurs et des lectrices que nous souhaitons former pour la vie. Pour minimiser les impacts de l'évaluation traditionnelle de la lecture à l'école, il nous faut donc faire le pacte qu'il est possible de revaloriser la lecture comme une expérience culturelle, sensible et dynamique, une expérience qui mobilise à la fois les compétences comme les appétences de chacun chacune. C'est justement ce que propose l'Université de Sherbrooke aux professionnels de l'éducation, mais aussi aux citoyens et citoyennes, parents et grands-parents. Rassemblés sous l'acronyme PACT, pour partage et plaisir, mais aussi accès, choix, temps et espace, cette initiative nous rappelle que lire est un acte qui ne doit pas rester isolé, qui ne doit pas être limité à l'école et vécu en solitaire seulement. Concrètement, ce pacte souligne l'importance de constituer des espaces de lecture stimulants à l'école comme à la maison. Il peut s'agir, pour le corps enseignant, de mettre en place des dispositifs collaboratifs riches en interactions sociales, cercles de lecture, clubs de lecture, etc., et de lancer des discussions informelles ou formelles avec les élèves. Les enseignants et les enseignantes sont également invités à utiliser de façon appropriée la technologie, par exemple en faisant lire aux élèves des œuvres pensées pour le numérique, et à garder des traces audio des échanges oraux pour permettre aux élèves de se réécouter et de s'améliorer. Le pacte suggère enfin aux professionnels de l'enseignement de donner du temps de qualité en classe pour des lectures indépendantes, d'inviter des modèles adultes de lecteurs-lectrices à rencontrer les plus jeunes, d'être soi-même un tel modèle et de valoriser la lecture au quotidien en classe et dans la collectivité. François de Clauset, dans un ouvrage au titre provocateur publié au milieu des années 1990 et intitulé « Le bonheur d'apprendre et comment on l'assassine », affirmait, en citant un de ses amis enseignants, qu'un professeur vérifie son enseignement en regardant la bibliothèque de son élève 20 ans plus tard. On peut dès lors se poser les questions suivantes. Que restera-t-il une fois le parcours scolaire obligatoire des enfants et des ados terminé? En quoi nos actions communes, partagées entre l'école, la famille et la communauté, auront-elles permis de susciter le désir de lire et de soutenir le plaisir d'apprendre des élèves? Ou, au contraire, en quoi les auront-ils dégoûtés de ces expériences? En insistant sur le rôle de transmission culturelle des enseignants et des enseignantes, ainsi que sur le plaisir d'apprendre, le récent référentiel du gouvernement du Québec est-il de nature à renverser la vapeur? Peut-il accompagner le corps enseignant dans sa volonté de soutenir le goût de lire chez l'ensemble des élèves, et donc pas seulement chez ceux qui aiment déjà lire? Conjugué aux orientations des programmes de français, il fait peu de doute dans mon esprit que cette compétence professionnelle a beaucoup de potentiel et mérite une attention particulière des milieux scolaires et universitaires. Dans le chaos extérieur qu'est la société d'aujourd'hui, nourrir par des expériences culturelles et esthétiques signifiantes comme la lecture, sa vie intérieure et son intériorité pour vivre davantage en harmonie avec soi et avec les personnes qui nous entourent, m'apparaît plus important que jamais. Dans cette perspective également, les enseignants et les enseignantes ne sont pas isolés du reste de la société. Ils et elles savent très bien que la maîtrise de la langue écrite au-delà de l'école enrichit la qualité de vie des individus sur les plans personnels, professionnels et socioculturels. C'est au quotidien que nous devons soutenir les profs ainsi que les enfants et les ados, afin qu'ils et elles arrivent à construire ensemble un goût de lire le plus durable possible. Comme le souligne l'anthropologue Michel Petit dans « Lire le monde » 2014, l'enjeu c'est, ellipse, que ces expériences, cette éducation, animent celles et ceux qui en ont bénéficié tout au long de leur vie, quand bien même ils auraient oublié la plus grande part de ce qu'ils ont vécu ou découvert. Ce n'est qu'à ces conditions que le père inquiet sera quelque peu rassuré et que ma fille Frédéric et ses camarades seront des lecteurs-lectrices leur vie durant. C'était « Soutenir le plaisir de lire », un texte de Martin Lépine paru le 24 août 2023 dans le magazine Nouveau Projet 24.